nous sommes entre Loire et Loing, c'est l'heure du magazine du Gâtinais sur C2L. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous écouter. Je vous rappelle que vous pouvez également nous voir puisque toutes les interviews et reportages que vous entendrez au cours de cette émission sont disponibles également en vidéo sur Facebook, YouTube. Vous pouvez vous abonner à la chaîne ou à la page entre Loire et Loing, partager, commenter, échanger des petits mots avec nos invités, nous dire ce que vous pensez de cette émission. Bref, participez à ce petit moment de convivialité comme chaque semaine. Au sommaire de ce numéro, la culture, c'est pas la grande forme, mais tout le monde se tient prêt pour repartir dès que possible. C'est ce que nous expliqueront Emmanuel Menot et Hervé Moplot tout à l'heure. Leconnecté.fr, tout près, tout proche. Vous avez certainement entendu parler, vous avez eu entre les mains ce petit magazine gratuit, mais vous ne connaissez peut-être pas son créateur, Jean-Paul Billot, un journaliste au parcours hors du commun et très amoureux du Gâtinais, comme nous. Autres amoureux, des arts cette fois, Nicole Quentin et Christian Lourdeau, collectionneurs d'art et galéristes à Courtenay, où la Galerie des Ormes est devenue un haut lieu de l'art contemporain dans la région. On la visitera tout à l'heure en compagnie de Sandrine Manteau. Mais pour commencer, je vous propose une rencontre avec un personnage pittoresque, Michel Rougier. Il vit à Rozoy-le-Vieil, donc pas très loin d'ici, et il a photographié tout le monde, tout le showbiz français des années 70, 80, 90, et il a plus d'une anecdote dans son sac.
Bonjour Michel Rougier.
Bonjour Sandrine Manteau.
Bon alors, on est très heureux aujourd'hui de t'accueillir ici pour nous parler de ton petit bébé. C'est ce bouquin, Parcours d'un petit gars du 17e, alors, dans lequel tu déroules tous tes souvenirs d'enfance, mais surtout tes souvenirs d'un amoureux de la chanson française qui a photographié le métier des années 60 aux années 2000, c'est ça?
C'est à peu près ça en termes de temps, oui, très peu de temps, mais beaucoup de rencontres. Ma vie n'a été faite que de rencontres. Et d'ailleurs, ce livre, je le dois à deux femmes extraordinaires, qui sont des femmes passionnées, qui sont des femmes pleines de sensibilité, d'amour et de tendresse, avec une grande culture. Je pense à Émilie Rigé, que tu as reçue il n'y a pas longtemps sur ce divan, et qui m'a beaucoup aidé, et ainsi qu'une autre amie de l'autre côté de l'Atlantique, Laurence Marmet, qui se nommait avant Margot et qui chantait dans les années 80. Elle a fait l'Olympia, le Casino de Paris. Nous avons vécu les mêmes choses et donc nous avons beaucoup échangé. Et c'est grâce à elle aussi si ce livre est là aujourd'hui et je les en remercie.
C'est ça, c'est Laurence Marmet qui t'a permis de finaliser cet ouvrage.
Voilà. Et au départ, c'est Émilie qui a insisté, mais elle est formidable, Émilie aussi.
Dis donc, Émilie, quel compliment.
Voilà. Et puis, on a un challenge avec Émilie. Elle a son chéri qui est photographe, de ce que j'ai vu. Donc, j'ai décidé d'avoir un petit challenge, de la photographier pour voir si j'arrive à faire aussi bien que lui, parce que je sais qu'elle est très amoureuse de ses photos.
Bon, alors, revenons sur ton livre. Souvent, je fais un lapsus révélateur. Je parle du parcours d'un enfant gâté. Gâté par la vie. C'est ça, tu es un homme heureux, Michel?
Oui, très heureux. Très heureux. Je suis heureux. Je suis désolé de le dire, mais je suis heureux. Il n'y a pas de problème. J'ai passé une enfance fantastique avec des parents et des grands-parents qui n'ont connu que la guerre et qui ont tout fait pour moi et qui n'avaient pas des gros moyens, mais qui m'ont toujours soutenu, qui ont toujours été à l'écoute. Et ça, c'est formidable.
C'est ça. C'est eux qui t'ont donné des ailes?
C'est eux qui m'ont donné des ailes, oui. Entre autres, puisque au départ, mon père voulait que je sois technicien en électromécanique, puisque c'était la mode, et j'ai décidé de passer un CAP de photographe. Je me suis pris une gifle ce jour-là, mais bon, aucun regret.
Tes premières photos, c'est quoi?
Mes premières photos, c'était je travaillais dans un studio qui s'appelait le studio Rochefort, rue de Berry, et nous ne faisions que des mariages mondains, et je faisais notamment, on avait l'exclusivité du bal des débutantes. Voilà. Et ensuite, après, eh bien, j'allais danser le week-end à la locomotive et un jour, le photographe de la locomotive était absent. Et ce jour-là, il y avait les Rolling Stones et Tom Jones. Et ce qui m'a permis de faire ma première pochette de disque en 1965 de Sir Tom Jones.
C'est ça. Après, tu vas partir au service militaire et là, tu vas rencontrer un grand monsieur.
Ah ben oui, mon service militaire, je ne savais pas, je faisais du sauvetage en mer pendant mes vacances, donc j'étais de ce fait inscrit maritime, et je me suis retrouvé dans la marine, sur le croiseur Colbert, et où j'ai eu la chance de créer un labo photo, Et le général de Gaulle est arrivé et j'ai fait tout le reportage du général de Gaulle, Vive le Québec libre, avec la traversée quelques jours sur le Colbert, avec quelques millions de vaisselles à porter, un grand lit avec des drapeaux bleu, blanc, rouge partout. C'était un moment extraordinaire.
Mais t'as pas continué dans la photo d'actualité ou au journalisme politique. Très vite, il y a le showbiz qui te rattrape. Alors, quels sont les artistes que tu vas rencontrer tout de suite après ?
Ah bah, les artistes que je rencontre, c'est tout d'abord Jean-Louis Foulquier, qui est le créateur des Francofolies. J'allais le voir à Studio de Nuit, à France Inter. On a passé beaucoup de nuits ensemble. Il a créé un magazine qui s'appelait Chanson Magazine, Chanson 83. On a fait les premiers Printemps de Bourges avec Nina Hagen, avec Balavoine, et à toutes ces émissions. De temps en temps, il y avait un artiste qui venait se mêler pour faire des imitations. Il s'appelait Patrick Sébastien, pour que Jean-Louis lui tende le micro. Et par la suite, j'ai rencontré Patrick. J'ai travaillé quelques temps pour lui comme photographe de plateau sur Carnaval et autres. Et puis, j'ai retrouvé une amie d'enfance également avec qui je partageais une maison en Normandie que j'ai retrouvée lors du Festival de Cannes, qui s'appelle Isabelle Sabatier, qui était mariée avec Patrick Sabatier. Et donc, voilà mes trois amis les plus fidèles dans le domaine des intervieweurs de la chanson française.
Je crois savoir que c'était une sacrée vie de patachon, non ?
Pas toujours. Il y en a qui ont moins de vie de patachon que d'autres, hein, qui sont beaucoup plus sages. Bon, à vous de deviner.
Parmi les artistes qui t'ont beaucoup marqué, quand je t'ai dit quels sont ceux que tu veux évoquer, tu m'as tout de suite dit Higelin.
Oui, mais Higelin, c'est d'excellents souvenirs. Notamment, on se retrouvait quelquefois la nuit du côté du quartier des Halles dans un restaurant très fermé, où on ne démontrait pas de blanche pour rentrer, et il y avait un piano, et vers 2-3 heures du matin, les artistes venaient faire le bœuf. Et un jour, Higelin est venu jouer du piano et chanter, et moi j'étais avec une petite amie, on ne va pas dire une régulière, et Higelin m'a vu, et il est monté sur les tables où les gens dînaient, il a pris une rose dans un vase, il est venu me l'offrir comme ça, à mon ami, en disant Michel Rouget, chanson magazine. C'est un très beau souvenir dans la part d'Higelin.
Et après, tu l'as croisé régulièrement.
Après, je l'ai croisé régulièrement, bien sûr, puisqu'elle est régulièrement aux Francofolies, aux émissions de Jean-Louis, j'ai des photos magnifiques où il salue son public, voilà, ça, Higelin, c'est...
Alors ton livre, il est justement ponctué de photos, voilà, par exemple, moi j'adore, je suis tombée comme par hasard sur mon chouchou, Philippe Léotard, voilà.
Ah ben Philippe Léotard, c'est un monstre aux Francofolies, à Philippe Léotard. Moi je vais vous dire, j'ai passé une nuit à côté de Philippe Léotard sur un lit de camp. Ben, je peux vous assurer que c'est quelque chose et qu'on ne dort pas beaucoup.
Et pourquoi ?
Oh ben, entre autres, il nous parle de son frère qui avait acheté une boutique et qui vendait ses drapeaux Place de la Concorde et qu'il était très content.
D'accord, très bien. Donc alors voilà, vous allez pouvoir découvrir pas mal de photos. Pas forcément des photos, des portraits de scène, il y a aussi des photos intimes que tu as mises dans ce bouquin.
Oui, c'est surtout des photos, c'est plus un carnet de notes ce livre.
Voilà.
Ce sont des photos où on n'a pas l'habitude de voir les artistes comme ça. Vous avez Patrick Sébastien assis devant la porte de sa caravane avec une cigarette entre les doigts de pied, par
c'est
exemple.
C'est Sabatier.
Voilà, vous avez Sabatier... Sabatier avec déguisé en Gainsbourg avec Sébastien, mes deux amis, qui ont également reçu Bette Davis, quand même un monstre du cinéma.
Tu parles de monstre du cinéma, moi je pense à un monstre de la chanson française, enfin du moins parmi ceux que j'aime beaucoup, Nougaro.
Nougaro, Claude. Alors Claude, je faisais toutes ces photos de presse. Et j'ai fait beaucoup de photos avec son trio Nougaro, avec Bernard Lubat, Maurice Vander, dans ses studios dans le 18e arrondissement. Et puis Claude, quand on lui rendait un service, voilà, c'est une petite anecdote, quand on faisait quelque chose de bien pour lui, je crois que j'avais trouvé des hôtels pour toute son équipe au moment du Printemps de Bourges, vous avez le droit, il vous fait monter sur la table, applaudir par tout le monde, et vous êtes assis à sa droite, et vous aviez le droit de partager sa bouteille de Mouton Cadet. Bon, il a une sœur, Hélène, qui s'est beaucoup occupée de lui. Voilà. Et Claude, il y a une photo, notamment dans ce livre, où il est devant une statue, où je voulais le prendre en photo dans son studio, devant cette statue. Il m'a dit, attends, il a pris son écharpe pour tout coup, il l'a mis devant le sexe de la statue. Il m'a dit, maintenant tu peux, j'ai une main devant le nombril de l'univers. Et puis, bien, il n'y a pas d'autres anecdotes, mais des anecdotes de sortie avec Claude, un petit peu arrosées.
Voilà, là, il est à mettre Claude Nougaro du côté des Patachons.
Oui, avec Foulquier aussi, Jean-Louis. voilà, Jean-Louis, j'en parle avec beaucoup plus de délicatesse parce que c'est celui que dont j'étais le plus proche. On se quittait jamais, on était très amis. Il était mon témoin de mariage, le parrain de ma fille. Et j'en parle avec beaucoup plus de retenue. Mais des êtres comme ça. Là-haut, il devrait encore rire en nous voyant tous nous agiter.
Bon, Mimi, tu ne vas pas nous lâcher une petite larmichette.
Oh, c'est possible, c'est comme ça que je suis surnommée aussi.
Oui, c'est vrai, c'est pour ça que je dis ça.
Mais bon.
Puisqu'on était en train de parler de Jean-Louis Foulquier, ça nous permet d'aborder un autre domaine. Jean-Louis Foulquier était peintre. Et tu es responsable, tu es détenteur, dépositaire de ses tableaux.
Dépositaire d'un certain nombre de toiles, pas toutes. Puisque j'ai créé, un peu grâce à cela, une association qui s'appelle Rozoy Art, à Rozoy-le-Vieil, où j'organise des expositions qui ne peuvent plus avoir lieu maintenant avec un peintre, un sculpteur et un photographe, et notamment les peintures de Jean-Louis Foulquier, et aussi les peintures de sa fille, Ambre, qui a habité très longtemps à Chalette.
Oui, c'est vrai, elle a habité
et
à Chalette.
Et on organise des expositions. Il y en a une là, d'ailleurs, qui doit bientôt partir, sur La Rochelle, dans très peu de temps.
En fait, je vais vous lâcher un scoop. Je crois que c'est pas là-dedans. La maison de Michel, c'est une vraie caverne d'Ali Baba. Il y a des œuvres d'art à peu près partout. Et donc, comme on ne peut pas toutes les mettre au mur, elles sont aussi par terre. Il y en a des piles. Tu pourrais monter une galerie, toi aussi.
Oh oui, il y a bien au moins plus de 200 toiles. Hein.
Voilà.
Mais pas des petits formats, des grands formats, pour le plus grand plaisir de ma femme. Mais bon, elle a toujours tout supporté. Voilà.
Je crois qu'elle est comme toi.
Elle est formidable. Et puis quand je l'ai connue, elle lisait un livre qui s'appelait « Souffrir et résister ». J'ai dit, elle est faite pour moi.
Alors ça, c'est le dernier scoop. Les deux derniers scoops. Hein. Vous ne les aurez pas dans le livre. Mais pour tout le reste, vous retrouvez tout ça dans le livre de Michel. Il y a un petit passage très émouvant. Il y a eu un passage difficile dans ta vie. Mais ça t'a permis de rebondir. Donc voilà, ce sont les mémoires d'un homme heureux et qui nous rend heureux là dans le Montargois. On est pas mal à être heureux d'être tes amis.
Eh bien, je suis heureux et je suis heureux quand les autres sont heureux. Et ça, j'en ai assez de voir que des gens malheureux. Il faut qu'il y ait de temps en temps des gens qui ont envie d'être heureux. Un jour, mon ami Patrick Sabatier avait eu l'idée de faire une émission qui s'appellerait « Le journal des bonnes nouvelles ». Bon, il n'a pas pu la faire parce qu'à l'époque, il y avait une autre personnalité politique sur une autre chaîne à la même heure et c'était un peu gênant. Ça, c'est un vieux scoop.
Il y en aura d'autres, on pourrait faire pas mal d'émissions quand même avec Michel. Merci beaucoup, Michel. Ton livre, tu le dédicaces à Aigreville la semaine prochaine.
Je le dédicace, oui, au magasin Super U à Aigreville. Mais bien sûr, on peut le trouver à la librairie du Hérisson et à la librairie des écoles à Montargis. Ils en ont bien deux, trois chacun. Mais sinon, Super U, ça marche bien aussi. Ou sur le web, on peut le trouver sur les grands sites, sur le web.
Merci Mimi.
Merci ma petite Sandrine adorée.
Michel Rouget au micro de Sandrine Manteau. Merci d'écouter Entre Loire et Loin, le magazine du Gâtinais sur C2L et sur les internets en vidéo. Une petite pause musicale et on se retrouve pour parler du monde de la culture dans le Gâtinais.
Dansez sur moi le soir de vos fiançailles. Dansez dessus mes vers luisants comme un parquet de Versailles. Embrassez-vous, enlacez-vous, ma voix vous montre la voie lactée, la voie clarté où les pas ne pèse pas. Dansez sur moi, dansez sur moi, dansez sur moi, dansez sur moi, sur moi. Dansez sur moi, dansez sur moi, qui tourne comme un astre. Étreignez-vous, étreignez-vous pour que vos cœurs s'encastrent. Tel un tapis, tapis volant, je me tapis sous vos pieds. C'est pour vous tous que sur mes doigts la nuit je compte mes pieds. Dansez sur moi, dansez sur moi, dansez sur moi, dansez sur moi. Hé hé hé, ça y est. Dansez sur moi le soir de mes funérailles. Que la vie soit feu d'artifice et la mort un feu de paille. Un chant de cygne s'est éteint, mais un autre a cassé l'œuf. Sous un saphir, en vrai saphir, miroir de mon sillon neuf. Dansez sur moi, dansez sur moi, dansez sur moi, dansez sur moi, dansez sur moi.
C2L.
C2L Radio.
89.3.
Nous sommes entre Loire et Loin, c'est le magazine du Gâtinais sur C2L. Merci d'être avec nous. Comme je vous le disais tout à l'heure, nous allons à présent parler culture. Les théâtres, les salles de spectacle sont fermées, mais on ne comprend pas tellement pourquoi. Par contre, les artistes, eux, eh ben, ils sont là, ils se tiennent prêts, ils se préparent.
Bonjour Manu Menot.
Bonjour.
Bonjour Hervé Moplot.
Bonjour.
Donc, vous êtes venu essayer notre canapé?
Oui.
Il est confortable.
Ça va, pas mal. Ouais.
Pas mal.
Ouais, ouais.
On avait envie de sortir un peu de leur boîte, des messieurs qui doivent être très malheureux en ce moment, hein, puisque toi Manu, tu es directeur du service culturel, mais également de la programmation à Chalette-sur-Loing. Mm-hmm. Et alors Hervé, toi tu m'as dit que tu étais DAC.
DAC.
Alors là ça claque.
Ah bah ouais,
là ça claque. C'est-à-dire directeur des affaires culturelles.
Exactement, pour l'agglo.
À l'AM. Voilà,
c'est ça.
À l'agglo. Bon, on est venu tâter votre pouls. Comment ça va?
Toujours vivant malgré tout.
Hein, voilà. Oui. Un peu toujours sur un sentiment de surprise, de voilà. Comment il y a un an, on fermait le spectacle, c'était le 12, hein, on a joué le 12, le 13, il n'y avait plus la deuxième séance, chez nous en tout cas, au Tivoli.
Oui, pareil.
Et depuis, bon, mis à part une petite incursion en octobre, voilà, on en est là, et ça, c'est vraiment un truc auquel on ne pouvait pas penser.
Alors les sentiments que vous avez pu éprouver, est-ce qu'ils ont évolué? Et est-ce que, comme dans le reste de la France, bon après vous avez des positions quand même institutionnelles un peu différentes de beaucoup de d'hommes et de femmes du spectacle, mais est-ce que ça évolue vers une forme de colère, même si ça reste digne?
Oui.
La colère, elle est là, hein, puisque d'ailleurs, elle a pris une forme plus importante depuis quelque temps, avec l'occupation de certains théâtres. Hein, donc, la colère, elle est là. Enfin, d'ailleurs, est-ce que c'est de la colère ou de l'incompréhension devant des décisions qui ne font pas de sens, en fait, qui n'ont, voilà, parce que toutes les études qui ont pu être menées démontrent que les cinémas et les théâtres, si dès l'instant on respecte quelques règles évidentes, ne sont pas des clusters. Alors pourquoi on est fermé, c'est pourquoi on nous interdit de travailler, c'est un peu ça.
C'est l'aspect punitif de cette décision qui me gêne. Mmh. On a bien compris qu'une fois qu'il s'est engagé dans ce type de décision, il est très difficile d'en ressortir. Mais la seule raison pour laquelle on ne joue pas, c'est parce que c'est pas bien de s'amuser pendant que tout le monde est dans l'épidémie, quoi. Au fond, j'en vois pas d'autre, parce qu'on sait aujourd'hui, la première fois on ne le savait pas, ok, on était comme les autres, hein, on s'adaptait.
Voilà.
On était étonnés, surpris, mais voilà. Et aujourd'hui, non, on devrait jouer, ça serait bien pour tout le monde. En plus, on avait vraiment travaillé les protocoles, enfin... Les gens ne se rendent pas compte à quel point le monde du spectacle est un monde hyper structuré, hyper organisé.
Mais comme tu disais, Hervé, le problème, c'est qu'il y a, que les spectacles ont une durée de vie relative et il y a une casse au niveau de la création quand même assez incroyable.
Dans la structure de fonctionnement des compagnies, en particulier des plus petites, enfin, qui représentent la majorité hein, des compagnies, et on n'imagine pas, ce n'est pas des compagnies comme du temps de Molière ou Comédie Française, où les gens sont embauchés et ils ont un certain nombre de spectacles, un panel de spectacles qui jouent en fonction de la demande, tout est prêt. Non, ce n'est pas ça. Ils réunissent une équipe autour d'un projet. Alors il y a des gens qui sont remplaçables, on peut remplacer un comédien ou un autre. Et au bout d'un moment, on ne peut pas faire le spectacle avec une équipe complètement différente, ça n'a pas de sens, on a bossé avec des gens. Le coût de production, c'est les gens qu'on a payés pour la répétition, oui. Pour mettre tout ça en place. Les techniciens peuvent assez simplement se remplacer, c'est pas toujours évident, mais ça se fait, mais les gens qui jouent, la mise en scène, etc., il n'y a pas moyen. Donc effectivement, alors ils font comme nous, hein, ils attendent, ils espèrent pouvoir jouer à un moment, mais est-ce que leurs équipes ne seront pas dispersées à ce moment-là, quand ça va reprendre? Parce que quand ça va reprendre, il y a embouteillage.
Il y a embouteillage.
Il y a embouteillage, très nettement. Tout le monde veut jouer, tout le monde veut prendre des spectacles, il n'y a plus de date, enfin, et puis on ne sait pas si on aura des spectateurs en même temps.
Oh, c'est ça, ouais. Si je voulais rattraper le retard, il faudrait à l'heure actuelle que je fasse deux saisons en une.
Ce serait pas très raisonnable.
Ce qui serait pas raisonnable, ce qui de toute façon financièrement n'est même pas pensable. Donc on a accumulé un retard et je ne sais pas comment on pourra l'éponger. Il va forcément y avoir, ce qu'on en dit quelquefois, de la perte en ligne. Il y a des spectacles qui auraient dû être joués qui ne le seront jamais. Oui, forcément, par la force des choses.
C'est certain. Ouais.
Donc, quelle est votre échéance, là, redémarrer en septembre? Croire que, espérer que?
Alors, c'est un jour sans
octobre,
fin. Hein,
un jour sans c'est fin, un jour sans fin.
L'an
voilà,
dernier,
ça,
on espérait redémarrer en septembre, enfin en octobre, ouais, effectivement, nous, on est en octobre. Et c'est comme ça qu'on va travailler, en effet. Mais je dirais que la première fois, j'étais sûr. Hein. Oh là là.
Oui, pas de problème.
Oui, ouais, en octobre, tu rigoles. Alors la deuxième fois, je vais être nettement plus prudent quand même, parce que bon, on peut se planter, mais pas tout le temps de la même façon. Donc oui, on va faire comme si ça redémarrait en octobre. Avec plein de questions sur la façon de faire, plein de questions sur la réaction du public au retour dans les salles. Mmh. Parce que la crainte, parce que la perte d'habitude. Hein. Mmh. Les gens, c'est un peu comme nous, hein, on a perdu. Quand il va falloir retourner tous les soirs bosser, ça va faire drôle. Mais les gens, c'est un peu pareil, bah, ils ont mis quelque chose à la place du créneau spectacle. Il y en a qui sont voilà, les plus ferventsviendront. Mais
on va garder nos militants, ça c'est
on
évident.
On en parlera forcément, voilà. il va falloir aller les
rechercher. Ouais.
Il va falloir aller les draguer.
C'est ouais, ça.
Complètement.
C'est ça.
Voilà, et puis... Oui, moi je me souviens d'avoir discuté avec Jacques Drouard il y a quoi, 3-4 mois de ça, où il m'a dit, en début de saison, c'est toi, en parlant de moi, qui avais raison, parce que j'avais pris la décision d'annoncer toute la saison, et vous aviez dit, donc, on y va 15 jours par 15 jours.
Oui. Oui,
donc
vrai.
En début de saison, dans l'esprit général, c'est moi qui avais raison et eux qui avaient tort. Un mois plus tard, c'était l'inverse, très ouais. Clairement. Parce que moi, effectivement, j'ai sorti une brochure de saison qui prend la poussière dans les archives. Quoi. C'est...
Bon, alors écoutez les garçons, on se donne rendez-vous au mois de septembre.
Dans 10 ans. Peut-être pas quand même.
Mais de toute façon,
c'est un peu long.
Vous avez une chanteuse en face de vous de temps en temps. Alors oui, c'est pareil. Hein. Non, non, mais on se donne rendez-vous sérieusement, on se dit, pour parler de la programmation, quoi, de la mais vraie programmation.
Nous, moi, dans ma tête, je fais tout pour qu'on redémarre en septembre. C'est vrai qu'à Chalette, on démarre un mois plus tôt que vous, à peu près. Mais voilà, c'est dans ma tête, c'est on redémarre en septembre. Bon, croiser les doigts, et puis voilà. Quoi, c'est, mais effectivement, parce que même si on n'a pas de visibilité quant aux décisions qui pourraient être prises dans les hautes sphères, on est bien obligé, nous, de se mettre des objectifs, sinon bah, c'est pas la peine que je sorte de chez moi le matin. Quoi. C'est...
Oui, et puis s'il n'y a pas d'anticipation, il n'y a pas de spectacle, parce qu'il faut quand même bloquer des dates, avoir voilà. des compagnies, faire un minimum de communication, même si on est beaucoup passé sur le numérique, mais le numérique touche pas tout le monde. Bon. Donc il faut faire comme si,
voilà.
en adaptant, parce qu'on sait que ça ne sera pas comme avant, mais on ne sait pas comment ce sera. Mmh. Mais si jamais on pouvait jouer, là, peu importe, si on peut jouer, on trouvera des solutions. Il ne faut pas que ça reste comme ça, parce que là, on commence à vraiment
s'user. Tu parlais de numérique aussi, tu parlais du fait d'être de plus en plus devant les écrans. Bah, le challenge, ça va être là. Ça va être réussir à faire survivre le spectacle vivant, malgré...
Ouais. Je suis pas hyper inquiet, parce que je me rappelle qu'à une époque, l'arrivée des chaînes satellites, machin et tout, on devait tous mourir. Hein. Mmh. Le cinéma devait disparaître, etc. Oui. Je crois pas, les gens ont super envie de sortir, de se retrouver. Ça va se faire. Il faut juste qu'ils soient rassurés. Mmh. Et puis, il faut qu'on leur propose de bonnes choses. Mais ça, c'est ce qu'on fait habituellement. Donc, il n'y a pas de problème.
Hein. Oui. Ah, oui. pas de problème. Mais en plus, on a. Enfin, moi, je sais que j'ai même l'embarras du choix dans ce que je peux proposer. C'est que ça devient. C'est que je suis obligé de dire, bon, eh ben ça, je vais. Ah ouais, mais ça m'embête de ne pas le prendre, de ne pas le programmer. Enfin voilà, on se retrouve presque. Parce oui, on n'est plus dans. Avant, on était sur, je dirais, à flux tendu, quoi. Il n'y avait jamais rien en stock. C'était produit presque tout de suite. Sauf que là, maintenant, on a du stock. Quoi.
Bon.
Et qu'il va bien falloir
les bah merci, vous nous avez mis le moral à zéro, c'était sympa de vous accueillir.
On avait dit qu'on ne démoralisera pas tout le monde. On l'avait dit au début.
Ouais, non, mais on dit aussi qu'en septembre, on s'y remet. Quoi.
Ah voilà, bah ouais, on est
prêt,
ouais.
À fond.
Merci Manu, merci.
Merci.
Emmanuel Menot et Hervé Moplot, respectivement responsables du service culturel de la ville de Chalette et directeur des affaires culturelles de l'agglomération montargoise. D'autres acteurs de la culture avaient, eux, l'autorisation de continuer leurs activités, mais la préfecture, du jour au lendemain, en a décidé autrement. Cependant, les croqueurs de pavés, parce qu'il s'agit d'eux, ne se laissent pas faire. Ils ont une pétition actuellement en ligne sur leur page Facebook pour demander la réouverture de l'école de cirque. Christiane Morel, à notre micro. Alors, le son est un peu... On a eu un petit problème de micro, donc le son n'est pas génial, mais on entend son message.
C'est une association, loi 1901, qui a pour fonction principale... Alors, c'est l'enseignement des arts du cirque. Mmh. À destination des enfants, des ados, des adultes. Alors les adultes, les pauvres, ils sont privés là depuis le deuxième confinement du mois de novembre, ils se sont éjectés très vite. Et les enfants, là, depuis le 19 mars, sont à nouveau interdits de chapiteau. Fin janvier, début février, on a pu reprendre grâce à un texte du ministère de la Culture, qui est notre ministère de tutelle, puisqu'on est une activité artistique et non sportive. Mmh. Et c'est grâce à ce texte qui autorisait la réouverture des activités pour les élèves mineurs. On n'est pas irresponsable, on ne reprend pas si on n'a pas le droit, bien évidemment. Donc on a repris en toute confiance le 3 février. Et là, le 19 mars, c'est tombé de la préfecture via la mairie. Fermeture immédiate. Les textes n'ont pas changé.
Mais on baisse pas les bras ?
Ah non, on baisse pas les bras. Nos adhérents nous ont envoyé plein de petits messages de soutien, de petits courriers, qu'on compte d'ailleurs envoyer ces jours-ci à Madame la Préfète.
D'accord.
Dans l'espoir qu'elle se rende compte que le ressenti de ses parents, ce ne sont pas des irresponsables, il s'agit quand même de leurs enfants. Donc je pense que si eux demandent la réouverture, c'est que leurs enfants sont en sécurité. Mmh. Je ne pense pas que des parents envoient leurs enfants vers le danger. Donc on va rassembler tout ça, on va faire un courrier à Madame la Préfète. À la demande de nos adhérents aussi, on a rédigé une pétition qu'on vient de mettre en ligne, où on essaye d'expliquer pourquoi on demande la réouverture de notre lieu d'enseignement. Voilà. On essaye de les convaincre du fait que ici on a 160 mètres carrés, entièrement dédiés à l'activité, avec des aménagements. On a investi dans la bande de gel hydroalcoolique sans contact. On a changé tout le sol en tapis de danse pour pouvoir désinfecter tous les jours. Le matériel est désinfecté régulièrement. On a des groupes qui vont de 6 à 11 enfants. Donc dans 160 mètres carrés, je crois qu'au niveau de la jauge, on est pas mal pour les distances. Donc voilà, c'est vrai que honnêtement, on ne comprend pas du tout pourquoi d'un coup comme ça, on est considéré comme dangereux finalement, parce que c'est ça. Si on nous empêche de travailler, c'est parce qu'on est considéré comme mettant en danger les enfants. Alors c'est pas le cas.
D'accord. Donc voilà, là.
À suivre, je dirais.
À suivre, et donc la pétition, on la retrouve où?
Alors, je crois qu'on l'a mis sur Facebook. Donc en allant sur notre page Facebook, les croqueurs de pavés, on va la trouver facilement. On la mettra peut-être aussi sur notre site, mais sur Facebook, il y aura moyen de la trouver facilement.
D'accord. Ok. Donc ben, on suit ça, et puis on espère revenir bientôt pour l'ouverture.
Ce serait bien.
C2L.
C2L Radio.
89.3.
Petite pause musicale à présent. On se retrouve dans quelques instants entre Loire et Loing pour aller visiter la Galerie des Ormes à Courtenay.
Combien de temps jusqu'à la mort? Je sens la tragédie qui sonne comme une odeur nauséabonde. Faudrait-il donc que j'abandonne? Vaut-il mieux compter les secondes? Le soir est noir, la nuit est blanche. Il est trop tard pour les remords. Soudain, je sens mon cœur qui flanche, mais ma mémoire résiste encore. Dans le ciel viennent les nuages. Après tout, qu'est-ce que ça peut faire? Bientôt sera l'heure de l'orage. Bientôt j'entendrai le tonnerre. L'automne se transforme en hiver. J'aurais bien aimé être sage. Il est trop tard, je désespère. Suis-je inutile et hors d'usage? Suis-je inutile et hors d'usage?
BP Entreprises, spécialiste de la fermeture aluminium, bois PVC, véranda, installation et dépannage 24h sur 24. Fenêtres, stores, volets roulants, portes d'entrée, garage, portails, clôtures, véranda, rideaux métalliques et bien plus encore.
Offre promotionnelle.
4 fenêtres achetées, un volet roulant offert. Aimez notre page Facebook et essayez de trouver le code promo pour gagner un volet roulant supplémentaire. Rendez-vous au showroom 24 Gaillardin à Montargis. Plus de renseignements au 02 38 26 56 84 ou sur la page Facebook RénovABP.
C2L Radio, C2L.
Courtenay, vous connaissez peut-être, sur la place, face à l'imposant pôle culturel et associatif, une petite galerie, la Galerie des Ormes. Nous sommes allés la rendre visite là-bas à Nicole et Christian.
Alors, on est aujourd'hui dans un endroit qui, pour moi, est une caverne d'Ali Baba. Incroyable. C'est une aventure d'un culot monstrueux. Ça s'appelle la Galerie des Ormes. On est à Courtenay. Et il faut bien que vous vous disiez que Nicole Quentin, ici, et Christian Lourdeau ont été, pour ainsi dire, des pionniers de l'art moderne et contemporain dans un vaste secteur. Hein. On parle même pas du Montargois, on parle peut-être du département, voire de la région. Et ça a démarré ici, l'aventure a démarré en 2005. Voilà. Pour eux, ça, l'art contemporain, c'est une aventure de toute une vie. On est d'accord. Hein? Tu me disais tout à l'heure, Christian, que c'est 50 ans d'amour commun pour l'art moderne. Voilà. Et précisément, cette galerie a été fermée pendant quelques années. On est vraiment là parce que c'est son grand retour. La Galerie des Ormes, le retour. Voilà. Mais revenons à la genèse de cette galerie. On est en 2005 et juste avant, en fait, vous avez rencontré Philippe Motron qui va rendre tout ça possible, en fait, ou va vous donner envie, en tout cas.
Oui, Philippe Motron va nous donner envie parce qu'il il avait un dynamisme et on a, grâce à lui, on a pu connaître des artistes de qualité, de talent, de la région, de Lyon, enfin du Gâtinais, on va dire.
Et vous avez fait la même chose que Philippe, en fait. Vous avez aidé pendant toutes ces années, les artistes à travailler.
Voilà. La seule chose, c'est que nous, on a présenté aussi des artistes venus de toute la France, qu'on a connus avec des galeristes parisiens.
Votre écurie, grosso modo, votre écurie d'artistes, c'est combien de personnes ?
40 sculpteurs et en peintres. 80 peintres. Et on les a surtout encouragés parce que parfois, évidemment, il y a des moments de perte de confiance et notre rôle, c'était ça.
Eh bien alors, ça tombe bien parce qu'on a Motron ici, et qui était un sacré bonhomme hein, au niveau de la personnalité. Hein. Et là, juste à côté, on a Saint-Paul qui vous a été présenté par Motron. Voilà. Alors Christian, vous avez plein de choses à raconter sur Saint-Paul parce que vous adorez sa peinture.
Voilà. En fait, Philippe Motron un jour nous a dit, il faut que je vous présente un peintre qui va vous intéresser parce qu'il a une mystique en lui et il est très abstrait, mais il a commencé en tant que peintre surréaliste dans sa jeunesse. Et on a rencontré Pierre Saint-Paul avec Philippe Motron à Vézelay. Il y avait une exposition, c'était extraordinaire. Hein. Et c'est vrai que Pierre Saint-Paul nous a beaucoup marqué par sa mystique. Et là, nous sommes devant un tableau qui est un peu comme une crucifixion, finalement. Et c'est très émouvant, quoi, très magnifique, Pierre Saint-Paul.
Alors, on va continuer la balade. Parce que l'idée, c'est, rappelons-le, jusqu'à présent, quand vous avez fait, à partir de 2005, toutes les expositions que vous faisiez ici, c'était souvent un artiste, peintre et un sculpteur. On en a plein ici, des sculpteurs de toutes sortes. Rappelez-nous les noms à peu près. Là, c'est Digneur.
Digneur également. Ensuite, nous passons à Pierre Yermia.
Il y avait peinture et sculpture, toujours peinture et sculpture, toujours mélanger les deux. Et là, depuis que vous avez rouvert, ce qui est extraordinaire, c'est que c'est une sorte de bilan de toute une carrière de collectionneur. Et on a un panorama de la peinture et de la sculpture contemporaine grâce à vous, maintenant que la galerie a rouvert, c'est vrai ?
Non, mais c'est ça qui est passionnant. Parce que moi, j'ai toujours aimé, j'ai pas de parti pris, et j'ai toujours une vision éclectique du monde et des choses, au niveau des cultures et des civilisations. Donc en fait, les artistes nous créent la civilisation. C'est eux qui créent la civilisation. C'est mieux que la politique.
C'est beau ce que tu dis, c'est trop beau. Alors on va continuer là. Là, c'est un peu le dada de Nicole, c'est Baviera.
Alors Baviera est un grand monsieur qui dispose d'un atelier de gravure où il fait de la gravure en relief, il est un des rares en France, à partir de papiers qu'il va acquérir au Japon. Voilà, il est aussi peintre et donc il continue son œuvre de peintre et il continue à faire des expositions à Sorgues. Où il présente des livres d'artistes dont on a également une petite collection dans la galerie.
Alors voilà, je saute sur l'occasion pour parler du livre d'artistes et du livre d'art, parce que vous allez faire les deux, ça c'est votre nouveau projet dans la galerie, pouvoir proposer à la vente ces deux types de livres.
Donc on a envie de magnifier, de faire résonner les œuvres de nos artistes plasticiens, sont plus plasticiens que les sculpteurs d'ailleurs, parce qu'un tableau, ça parle beaucoup plus, il y a beaucoup plus de poésie dans un tableau que dans une sculpture.
Ça, c'est
non, mais c'est vrai. Il y a des sculptures émouvantes, bien sûr, Brancusi, c'est émouvant, Rodin, c'est émouvant, mais les tableaux ont beaucoup plus de moyens de parler. Non, nous avons donc décidé de faire des... J'ai toujours rêvé de faire des livres d'artistes, et on va aussi vendre, on va aussi faire des livres... nos livres d'artistes, ça sera des livres avec des artistes plasticiens avec de la poésie à côté. Et on va aussi faire exposer des livres d'artistes par des créateurs avec des livres à tirage limité à 5-20 exemplaires, voyez.
Alors justement, comme on parle de ces livres d'art qui seront donc existants, évidemment, comme ceux de Baviera ou que tu vas créer, on va tout de suite parler de Valota ici. À l'occasion du Printemps des Poètes, donc il y a une mini-exposition de Patrice Valota. Et là, tu peux tourner parce qu'ils sont là-bas, les Valota. Ils sont de l'autre côté. Et Christian a édité justement ces petits livres. Alors là, c'est du livret pour l'instant. Hein ? C'est du symbole, pour ainsi dire. Dans ce livret, il y a des œuvres de Valota et tu les as émaillées des grands poètes que tu aimes à chaque fois que ça a fait résonner en toi. Raconte-nous ce que tu penses. Tu me parles toujours des correspondances à la Baudelaire. Raconte-moi ça.
Mais en fait, pour moi, en fait, dans n'importe quelle œuvre d'art, il y a une expression, il y a quelque chose qui sort du fond. Du fond de l'histoire de l'humanité, je dirais. Et donc les poètes sont capables d'exprimer des choses extraordinaires avec des mots, et la correspondance avec l'œuvre sur une toile ou même une sculpture, ça parle, voilà. Donc en fait, pour moi, je ne peux pas regarder un tableau sans penser à un poème. Je ne peux pas lire un poème sans penser à un tableau. Et c'est ça que j'adore.
Et alors, justement, on va rester sur Valota.
Sachant que c'est un peintre particulier qui travaille avec un chalumeau, des casseroles et qui travaille à la cire, comme les œuvres du Fayoun qui remontent maintenant à l'Égypte ancienne. Et donc, ces œuvres sont d'abord faites à la cire, ensuite, avec des scarifications, il leur donne un sens. On a donc des paysages ou des petites maisons. Voilà, ça c'est le travail de Valota, qui en même temps vient d'acheter un four pour commencer une carrière avec de la céramique. Et il a une autre corde à son arc, c'est un artiste qui déclame au théâtre soit de la poésie, soit des textes.
Oui, puis c'est également un acteur qui a une très belle carrière. Bon, juste en dessous, il faut que tu nous parles de Yermia, parce que Yermia, c'est aussi un artiste que tu as, pour ainsi dire, aidé à grandir et qui a le vent en poupe à l'heure actuelle.
Voilà. Yermia est donc un sculpteur pour le bronze. C'est un garçon très réservé et qui obtient à plus de 50 ans maintenant un petit succès, notamment par rapport à un article du Figaro où on le considère parmi les 5 artistes à suivre actuellement, dont il faut suivre la carrière. Alors Yermia travaille essentiellement l'être humain ou les animaux. En nous faisant observer notre fragilité, chacun étant perché sur des membres maigres et avec une toute petite tête, pour bien nous faire prendre conscience que, quelle que soit notre stature, nous restons des êtres fragiles.
Vous savez, à chaque fois que je vous entends, moi je dis qu'on en prend plein les yeux en venant dans votre galerie, ça fait donc ça fait bientôt 25 ans. Mais c'est aussi à vous écouter, c'est incroyable, vous illustrez tout à fait l'association dans laquelle vous êtes entré cet an dernier, qui s'appelle Courtenay en poésie. Vous vivez la poésie, mais vous dites la poésie quand vous nous expliquez les œuvres, quand vous confiez vos sentiments à propos des œuvres et des artistes, on comprend que vous allez loin dans la compréhension de ce que vous exposez.
Merci à Nicole et Christian, la Galerie des Ormes à Courtenay. Une visite que vous pouvez retrouver en vidéo sur les internets, en particulier sur notre page Facebook Entre Loire et Loin. Abonnez-vous, partagez, commentez, tout ça. Et bien sûr, précipitez-vous à la première occasion pour visiter cette galerie assez incroyable. Allez, un peu de musique. Merci de nous écouter Entre Loire et Loin sur ces deux ailes.
Dans un pays pas très loin d'ici, dans un pays plat, aussi plat qu'un plat, aussi petit qu'un petit confetti, il n'y avait pas de loi et chacun pour soi. Il avait un tout petit zizi et un grand cul, le père Ubu. Sa madame était une femme infâme et tout odu, la mère Ubu. Bêtes et méchants, les deux emmerdants, n'aimaient que l'argent et la crème Mont Blanc. Ils avaient un plan pour un coup d'état, pour un pif pour vent avec un bazooka. Ils avaient un tout petit zizi et un grand cul, le père Ubu. Sa madame était une femme infâme et tout odu, la mère Ubu. Puis le jour vena où Ubu et le roi se rencontra, twist ya ya ya. Après l'entrevue, un tout à cul, merdre dit Ubu et le roi est mouru. Il avait un tout petit zizi et un grand cul, le père Ubu. Sa madame était une femme infâme et tout odu, la mère Ubu.
C2L Radio.
Merci de nous écouter Entre Loire et Loin, c'est le magazine du Gâtinais sur C2L. Et figurez-vous que nous ne sommes pas seuls à aimer sillonner et découvrir notre belle région. C'est aussi ce que fait Jean-Paul Billot avec leconnecté.fr et son petit magazine gratuit que vous pouvez trouver dans de nombreux commerces, tout près, tout proche. Nous avons voulu en savoir un petit peu plus sur ce journaliste au parcours assez incroyable.
Bonjour Jean-Paul Billot.
Bonjour Sandrine Manteau.
Vous avez une énergie folle, là, ça fait déjà plusieurs heures que vous êtes avec nous alors qu'on fait des tournages.
Oui, absolument.
Alors, moi, je ne vous connais pas si bien que ça, et pourtant, on est beaucoup d'ailleurs dans le Montargois à penser la même chose que moi. Vous êtes partout. Vous avez donc un petit magazine qu'on voit dans les commerces.
Voilà, tout près, tout proche, tiré à 5500 exemplaires sur le Gâtinais.
Voilà, et il y a parallèlement à ça, donc, le Connecté.
Voilà, leconnecté.fr, qui est un site internet, absolument.
Qui parle de l'actualité.
Qui parle de l'actualité, alors qui parle aussi, j'allais dire, l'actualité actuelle, c'est quand même beaucoup plus le Covid que les spectacles. Hein, vous en discutiez tout à l'heure avec les responsables de spectacles.
Oui,
oui, effectivement, donc là, on est tous un peu phasés là-dessus, bien sûr.
D'accord. Donc, je vous disais, on ne se connaît pas bien. Il y a un homme en noir qu'on voit partout dans le Montargois avec une sorte de don d'ubiquité quand même assez impressionnant. Et vous êtes qui, Jean-Paul Billot ?
Ben, je m'appelle Jean-Paul Billot, donc ça va. Alors je précise tout de suite, évidemment, mais tout le monde aura bien compris que je ne suis pas le président de l'agglo montargoise, ça c'est clair.
Ça vous fait pas souffrir, ça va?
Non, mais il faut avouer que la première fois que j'ai appelé un imprimeur pour prendre rendez-vous, pour faire un devis pour une de mes revues, et quand je suis arrivé, il me dit « Vous êtes qui ?» Ben, je dis « Jean-Paul Billot ». Il dit « Non, c'est pas possible, vous n'êtes pas le maire de Solterre ». Je dis « Ben oui, mais je suis de Solterre, je m'appelle Jean-Paul Billot, comme Jean-Paul Billot, le maire de Solterre et aujourd'hui président d'Aglo. Et oui, c'est d'une particularité, j'ai un homonyme et je suis son homonyme. »
Et en fait, vous êtes voisin même, vous disiez.
Eh ben, quand j'étais, quand nous étions ados et enfants, enfin moi quand j'étais ado et lui, il habitait en face, quoi, globalement, sur la Nationale 7, à l'époque, il y avait des boîtes aux lettres, certes, mais pas de numéro. Donc on était tous les deux adressés à route de la Nationale 7. Et donc il est arrivé quelquefois, effectivement, que je reçoive son courrier et lui le mien.
Bon, alors avant de créer ce connecté, le connecté, il a 2 ans en fait, c'est ça?
Et ben voilà, donc les sociétés ont été créées un 1er avril, c'est pas une blague, en 2019.
Vous avez une vraie activité de journaliste de terrain à l'heure actuelle sur le Montargois. Néanmoins, ce journalisme de terrain, eh bien, vous l'avez pratiqué ailleurs.
Moi, dans les années 80, j'étais journaliste, correspondant de presse, journaliste sportif pour l'Éclaireur à la République du Centre.
D'accord.
Donc, si vous voulez, et pour les plus anciens, et je leur dis que c'est Jacques Fortuné qui était le dessinateur de l'Éclaireur qui m'a fait rentrer à l'Éclaireur. À l'époque, le patron, c'était Jacques Denis Lassave, etc. Donc, si vous voulez, j'ai commencé sans avoir été formé au journalisme, parce que j'étais photographe, donc ils avaient besoin de moi en tant que photographe. J'ai sillonné le Gâtinais dans ma 3 chevaux pendant longtemps.
Et puis un jour ?
Eh ben un jour, ils étaient prêts à m'embaucher finalement à l'Éclaireur et ils trouvaient ça formidable, un gars du coin qui. Voilà. Et puis j'ai dit, bah, je vais quand même faire une école, quoi.
Oui.
Quelques études.
Le CMJ.
Alors j'ai fait une licence d'histoire, j'ai fait le centre de formation des journalistes à Paris. Et puis, bon, moi j'ai eu toujours beaucoup de chance. En fait, je suis arrivé au moment où se développait ce qu'on appelle la bêta-cam, c'est-à-dire qu'avant, ça paraît incroyable aujourd'hui quand on voit les petites caméras que l'on a et par lesquelles on est filmé aujourd'hui, mais à l'époque quand on faisait de la vidéo, puisqu'on avait abandonné le 16 mm le film, mais, alors vous aviez des équipes de 4 personnes, c'était extrêmement lourd avec des magnétoscopes grands comme ça, des caméras grandes comme ça, enfin bref, c'était l'enfer pour faire de la vidéo, puis d'un seul coup, Sony a lancé la bêta-cam, c'est-à-dire une caméra où tout était intégré dedans, hein. Et d'un seul coup, donc, ça permettait à une seule personne de pouvoir faire un reportage, puisqu'il n'y a plus besoin d'être 3 ou 4. Savoir utiliser cette caméra, mais aussi avoir toutes les compétences journalistiques, parce que tenir une caméra, c'est une chose, mais encore fallait-il savoir monter, faire des images, faire un commentaire, et tout ça, ça je l'ai appris à l'école. Je l'ai appris à l'école, mais à l'époque, dans toute la France, il y a 6 types comme moi qui ont été formés cette année-là. On était les premiers de chez premiers. Et donc, en fait, bien évidemment, on n'a pas eu trop de mal ensuite pour trouver du boulot parce qu'on avait un gros intérêt. C'est que globalement, quand un ministre, et à l'époque, vous allez voir de qui je veux parler, quand Bernard Kouchner, qui était secrétaire d'État, disait « je vais clandestinement au fin fond du Sud-Soudan sans que personne ne le sache et je ne peux pas emmener une équipe classique de 4 personnes parce que là, c'est Hollywood », en revanche, mon agence, qui c'était l'agence Capa, moi, j'étais formé et j'avais le matériel pour être tout seul et tout faire. C'était un gros intérêt pour prendre l'avion, accompagner les gens, pouvoir être au plus près de l'action et puis de pouvoir se projeter.
Alors donc vous êtes devenu un spécialiste de l'Afrique.
Il se trouve que, bon, c'est pas que Bernard Kouchner qui m'a emmené en Afrique, mais il se trouve que oui, à l'époque, donc je suis rentré dans l'agence Capa en 1989, qui était une jeune agence qui se créait. Pour les plus anciens, on faisait le magazine 24 heures pour Canal+. C'était un hebdomadaire, c'était 52 minutes de documentaire filmé au plus près des gens. Et quand vous commencez en 89, ça a l'air bête, mais si vous vous souvenez un peu, ça commence avec la place Tiananmen, après on casse le mur de Berlin, après on va faire une petite révolution en Roumanie, après on va en Tchécoslovaquie, après en Pologne, enfin bref. Le monde changeait, explosait. Et nous, on était là.
Pourquoi on a envie de revenir dans le Gâtinais? Ça aussi, ça je me le demande depuis tout à l'heure.
J'ai eu la possibilité de revenir. Donc chez moi, sur mon territoire, en plus le Gâtinais, je connais bien, je connais les anciens journalistes qui étaient là avant. Je connais moins évidemment les nouveaux, on ne se connaît pas, voilà. Mais j'ai bien vu qu'il y avait beaucoup de choses à faire. Et que moi, c'est mon territoire. Je sais que c'est difficile pour les gens de comprendre qu'on a une chance formidable d'habiter en Gâtinais. Pourquoi ? Parce que le Gâtinais, pour eux, ça évoque pas grand-chose.
On dit souvent que c'est un territoire bâtard, un territoire de transition.
Ben, c'est un territoire de transit, ça l'a été longtemps. Hein, quand vous aviez les Morvandiaux qui allaient chez les Beaucerons pour faire chaque été la récolte de blé, ben, ils passaient par chez nous, puis ils repartaient dans leur forêt pendant tout l'hiver. Alors quelquefois ça se passait mal évidemment, parce que comme ils revenaient avec de l'argent et puis qu'on faisait des balles dans le Gâtinais, quelquefois ils emballaient un peu les filles du Gâtinais et puis ça plaisait pas aux gens du Gâtinais, mais voilà. Après moi je me suis rendu compte que y a une richesse qu'on a conservée mais que personne ne voit bien, c'est notre environnement. On a un environnement formidable. Et moi l'intérêt c'est que je veux, et dans ce que je fais dans la presse, c'est pas rétablir un sentiment de fierté, parce que ça c'est un peu prétentieux, mais d'être fier de là où on est. Je veux dire, les gens ne se rendent pas compte qu'ils ont des richesses formidables tout autour de nous, parce qu'on leur a peut-être pas bien présenté ou ils se sont habitués. Exemple, vous avez l'Arboretum des Bars, un agence sur Vernisson. Bah, si vous en parlez aux États-Unis, quand vous dites Arboretum des Bars, ça fait voilà. Mais si vous en parlez dans un coin du Gâtinais, les gens ne savent pas, ils ne viennent pas. C'est pas pour eux. Donc bon, ça nous pose tous des questions, pour les collectivités aussi, pour tout ça, c'est-à-dire comment on réenchante en plus la proximité pour les gens. Et puis au-delà de ça, comment on parle des gens qui sont les talents du Gâtinais? Il y en a beaucoup. Donc voilà, alors moi je suis à la fin de ma carrière, donc c'est pas... je boucle, vous voyez, hein, je suis parti d'ici, et hop, je reviens. Et je reviens avec forcément quelques idées un peu... pas forcément nouvelles, mais qui ici innovent.
Alors les idées nouvelles, c'est ?
Ben, les idées nouvelles, c'est que, je suis très attaché à l'image, au numérique, etc. Et je vais développer, et je développe déjà des projets là-dessus. Ça, c'est évident. Après, dans les projets éditoriaux, c'est qu'effectivement, on est dans un monde en pleine transformation. Moi, j'aime beaucoup, par exemple, les chiffres pour faire du data journalisme, ce qui est... Il faut avoir une certaine compétence, l'avoir déjà fait avant et l'apprendre. Mais effectivement, tout à l'heure on parlait du Covid, c'est parce que j'ai fait ça que j'ai pu expliquer la situation, parce que j'ai compris les chiffres que les services publics nous donnaient. Et puis il faut savoir cartographier, il faut savoir faire des choses pour rendre compréhensible ce qu'on raconte.
Voilà, donc ce qui est extraordinaire, c'est que vous êtes sur le terrain au niveau rédactionnel, mais vous êtes sur le terrain aussi, vous m'expliquez, pour distribuer vos petits journaux dans les commerces, c'est vous aussi qui récupérez la pub.
Alors là il y a aussi un commercial qui est... Voilà, là on est dans une période où, si vous voulez, c'est un peu compliqué aussi pour aller chercher des annonceurs, puisque nous, on a un modèle privé, on n'a aucune subvention. Nous, et on a une particularité. Quand je suis revenu dans le Gâtinais avec mon associé qui lui habite dans le Giennois, mais c'est la continuité. On voulait créer ces groupes de presse. On avait un principe clair, c'est que qui allait nous financer? Des annonceurs, c'est-à-dire des gens qui font de la pub. Donc c'est des gens locaux. Et donc en fait, si cet argent venait des annonceurs du Gâtinais, eh bien cet argent devait être dépensé pour produire le journal que en Gâtinais. C'est bien pour ça que, si vous voulez, nous, le premier truc qu'on a fait, c'est qu'on a cherché les imprimeurs du Gâtinais pour faire imprimer Gâtinais. Pourquoi? Parce qu'on est en circuit court sur l'argent local. Ce n'est pas de l'argent qui va ailleurs. Je pourrais peut-être trouver un imprimeur moins cher en Ariège, comme a déjà fait un de mes concurrents du Gâtinais. Mais vous voyez un peu l'absurdité du truc.
L'Ariège, c'est déjà mieux que l'Europe de l'Est ou...
Oui, mais enfin, alors... Oui, peut-être, mais possible. Mais donc, moi, je certifie que 100% est fait dans le Gâtinais, sauf, évidemment, ce que j'appelle tous les softs, les numériques et tout ça, parce que ça, on n'a pas de data center dans le Gâtinais, on n'a pas tout ça, hein, on est d'accord. Ça ne peut être qu'ailleurs. Mais, si vous voulez, c'est qu'une infime partie de ce qu'on dépense, tout est dans le Gâtinais. Et c'est hyper important. Il faut penser circuit court, on en parle en termes de nourriture, mais il faut penser aussi circuit court d'un point de vue économique, sur tout le reste, quand on peut. Quand il n'y a pas, on va ailleurs. Mais quand il y a, je veux dire, ça serait une aberration d'aller chercher un imprimeur ailleurs que dans le Gâtinais. Mmh. Et pour vous dire jusqu'où on a une deuxième édition dans le Giennois, et bien c'est un éditeur du Giennois.
Il y a une deuxième édition dans le Giennois.
Voilà, un imprimeur du Giennois.
Alors écoutez, on va se terminer là-dessus, Jean-Paul. Moi, j'ai envie de dire que vraiment, vous nous avez développé votre passé de grand reporter, mais je crois bien que vous vivez cette nouvelle aventure à 100%, comme vous avez pu vivre des aventures incroyables en Afrique. Et parce que vous êtes comme ça, vous êtes un corps perdu dans ce que vous faites.
Oui, alors ça, c'est sûr que pour mes proches...
C'est pas drôle.
C'est pas forcément drôle, ouais. C'est pas forcément drôle. Mais après, si vous voulez, c'est une passion. Bon, on est d'accord. Là-dessus, c'est vrai que... Après, moi, je travaille comme je vis, c'est-à-dire un peu fond les ballons.
Voilà, et vous nous montrez que vivre le local, ça peut être aussi intéressant que vivre l'international.
Ah, mais c'est bien sûr.
Quand on pose le regard qu'il faut dessus.
Mais vous savez, quand j'étais en Afrique, moi j'ai été élevé dans un petit village, hein, c'est la commodité solitaire à l'époque, et on vivait dans un truc où on ne se rend pas bien compte parce que c'était les années 70, voilà. Mais bon, d'abord, c'était mon grand-oncle qui était maire. Bon, il a été maire pendant 36 ans. Donc j'étais déjà le petit-neveu du maire. Hein. Mmh. Ça posait son homme. Après, j'étais dans une école publique avec M. Fagé et nous étions 22 élèves du cours préparatoire au CM2. Il y avait la couturière du village qui venait former les filles. Moi, je voulais faire de la couture, mais j'étais un garçon, donc c'était pas la peine, mais qui venait faire la couture. Et nous, on se retrouvait le dimanche matin pour tirer au fusil. En fait, j'étais dans la Troisième République, là. J'étais dans l'école de Jules Ferry de la Troisième République avec le cours de morale le matin. On était dans les années 70. Et c'est des trucs incroyables. Mais j'ai beaucoup appris. On était entourés, c'était très intergénérationnel. Les joueurs de pétanque, c'était les vieux, mais nous, les jeunes, on était avec eux. On organisait. Et donc, en fait, ce côté village, vraiment village, quand je suis allé en Afrique...
Ouais, vous l'avez retrouvé.
Mais complètement. Et donc, en fait, je savais qu'il fallait passer par les vieux pour faire ci ou... Pour... Donc, j'ai beaucoup appris aussi de mon territoire. Et ça m'a servi ailleurs. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup appris en voyageant. Ben, j'espère pouvoir ramener un peu ça sur notre territoire.
Cet homme est absolument intarissable.
Oui, bon, on va s'arrêter là.
Et ça fait 20 minutes que je l'écoute avec passion, mais nous allons nous arrêter là.
Oui, je pense aussi.
Donc, Jean-Paul, merci énormément d'être venu sur ce canapé.
Oui.
Et puis, tu vas nous raconter plein de... Ben, ça y est, je suis passée du vouvoiement au tutoiement, tellement...
Voilà, oui, c'est puis magique. Confraternellement, on se tutoie vite. Là.
Merci beaucoup
merci,
de tant
Sandrine.
De passion et à bientôt.
À bientôt.
Donc le Gâtinais, à travers les yeux de Jean-Paul Billot, le créateur de Tout Près, Tout Proche, un petit magazine gratuit que vous pouvez trouver dans de nombreux commerces de notre région. Dans notre région, certains d'entre vous le connaissent peut-être également, car il anime depuis très longtemps maintenant le Café Philosophique de Montargis, mais il est également l'auteur du Blabla Blog, un blog culturel sur le web, où il chronique des CD, des films, des livres, des BD, etc. etc. Et il nous partage tout ça, entre Loire et Loin. Voici Bruno Chiron, assez de blabla.
Dans l'univers du classique, Katia Bougnati-Jvili fait partie des très grandes stars adulées et réclamées sur la plateau télé. Aussi française que géorgienne, son pays d'origine, Katia Bougnati-Jvili a sorti il y a quelques semaines sa compilation Labyrinthe. La musicienne dit ceci, « Le labyrinthe est notre esprit, souvenir de notre enfance dans une perspective d'adulte. Le labyrinthe est notre destin et notre création. » Dans une pérégrination mêlant romantisme, classicisme, modernisme, audace, revisite et clin d'œil, Katia Bougnati-Jvili s'amuse à sauter à pieds joints d'un siècle et d'une époque à l'autre, sans se soucier des époques et des styles. Sa version funèbre du thème de Deborah d'Ennio Morricone, qui a été écrit pour le film Il était une fois en Amérique, côtoie la Sicilienne de Vivaldi et Bach, un des intermezzos de Brahms, une sonate de Scarlatti, mais aussi les somptueuses barricades mystérieuses de François Couperin. La pianiste franco-géorgienne cache décidément bien son jeu. Elle laisse de côté les grands incontournables de cet instrument, si on excepte la première gymnopédie de Satie, la badinerie de Bach ou le prélude en mi mineur de Chopin, au profit de morceaux et de compositeurs moins courants. Le contemporain a une place de choix avec Philippe Glass, Heitor Villa-Lobos, Arvo Pärt ou Ligeti. Figurez-vous que Serge Gainsbourg a même les honneurs de la pianiste avec une adaptation jazzy de la javanaise. Plus étonnant encore, Katia Bougnatichvili propose une 17e piste intitulée 4 minutes 33. L'auditeur n'entendra aucun son de ce morceau légendaire de John Cage, 4 minutes 33 de silence métaphysique. Katia Bougnatichvili sort indéniablement des sentiers battus avec cet album classique mais aussi très personnel, à l'image de son interprétation bouleversante de l'adagio de Bach, réarrangé par Alessandro Marcello. Mais assez de blabla, je vous propose de découvrir cette version incroyable de la javanaise de Serge Gainsbourg par Katia Bougnatichvili.
C2L.
Merci Bruno Chiron, assez de blabla pour cette découverte. Nous étions entre Loire et Loin sur C2L, le magazine du Gâtinais. C'est terminé, merci de nous avoir écoutés. L'émission de radio est disponible en podcast sur le site de C2L, c2l-radio.fr, ainsi que sur Mixcloud. Et puis, les différents reportages qui composent cette émission sont visibles en vidéo sur YouTube, sur notre page Facebook, Entre Loire et Loin. On remercie toute l'équipe, Sandrine Manteau, Patrice Avzar, Bruno Chiron, JB, Anita, Émilie, JP, bref. Et puis moi, Pascal Weber, qui est à la réalisation de tout ce bousin. On se donne rendez-vous samedi à 10h et je vous souhaite de passer une très bonne semaine. C'est